Marsactu, bonjour.
Oui, bonjour, je cherche à joindre un journaliste. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser.
Oui, attendez un instant, je m'isole. Oui, je vous écoute.
Bienvenue dans le bocal de Marsactu, la pièce la plus confidentielle de notre journal local d'investigation basé à Marseille. Dans ce podcast, on vous emmène au cœur de l'enquête avec, dans chaque épisode, un ou une journaliste de la rédac prêt à expliquer dans les moindres détails son travail de recherche d'infos, de reportage ou encore de décryptage. Allez, entrez et fermez derrière vous, vous êtes dans le bocal, saison 2.
Pour ce nouvel épisode du Bocal de Marsactu, on ouvre le journal. Non, pas le nôtre, qui s'ouvre d'un simple clic, mais le principal quotidien local, celui qu'on trouve sur les comptoirs des bars de la ville, la Provence. L'entreprise a vécu ces derniers jours une crise dont elle a le secret, avec mise à pied d'un directeur, grève illimitée de quelques jours, et rassemblement avec pancarte devant le siège de la Provence, avenue Roger Salengro. Je m'appelle Benoît Gilles et je reçois Jean-Marie Le Forestier qui a mis le nez dans les petites affaires de nos confrères et accessoirement de celle d'une des plus grandes fortunes françaises, la famille Saadé, patron de CMA-CGM. Jean-Marie, bonjour.
Salut Benoît.
Comment démarre cette crise vendredi dernier?
Elle démarre par la convocation de manière très matinale d'Aurélien Wiers par sa direction pour se voir signifier une mise à pied. Alors Aurélien Wiers, c'est le directeur de la rédaction choisi par le nouvel actionnaire CMA-CGM il y a un an et demi, quand ils arrivent à la tête du journal, qu'ils le rachètent au tribunal suite à la faillite de Bernard Tapie. Il se retrouve dans une situation où on lui signifie qu'il n'a plus le droit de parler dans le journal, qu'il est mis à pied, qu'il a une convocation pour un rendez-vous le 29 mars, à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement.
Cette affaire qui se passe en coulisses et qui tout de suite fait trembler la maison, elle a aussi une version, on va dire, émergée. Puisque à la une du quotidien, il y a un lecteur qui a pu faire tiquer certains. On va entendre ce que le patron du journal, Gabriel Darcourt, écrit à la une de la Provence.
La citation en une et la photo d'illustration ont pu laisser croire que nous donnions complaisamment la parole à des trafiquants de drogue décidé à narguer l'autorité publique, ce qui ne reflète pas notre ligne éditoriale. Nous avons induit en erreur nos lecteurs et la Provence leur présente ses plus profondes excuses.
Est-ce que le dossier de Une a donné la parole aux acteurs du narcotrafic, comme semble le dire le patron?
Non, pas du tout. La citation qui est incriminée, disant « Macron est parti et nous, on est toujours là », elle émane de Brahim, un habitant qui est cité dans le message comme rentrant de ses courses. On le dit qu'il a des commissions à la main. Il constate simplement qu'on sait quadriller un quartier pour en faire une visite un peu carton-pâte d'un président de la République. Ça vaut pour les ministres aussi, nous, on connaît bien ça. Et au final, la Provence fait un exercice qui, journalistiquement, me paraît assez banal. C'est-à-dire de retourner au lendemain du passage du président, retourner dans le quartier où il est passé. Rien de scoopique, a priori, je pense que toutes les rédactions de France ont déjà fait ça. Et Nadia Tiguidette, qui est la journaliste qui fait ce reportage, raconte comment un quartier, une fois que le président est passé, ça reste le même quartier qu'avant. Évidemment, il n'y a pas de formule magique. Quand un président de la République vient, il n'y a pas d'un coup les trottoirs qui brillent et la vie qui sera gaillardie, tout le monde qui a retrouvé du boulot. Enfin, évidemment, non, quoi, ça n'existe pas.
Et au final, la seule référence aux acteurs du narcotrafic apparaît dans un article de pied de page de ce dossier et qui ne cite pas directement d'ailleurs en interview.
Qui constate que le trafic reprend la Castellane, ce que vont faire beaucoup de médias. BFM Marseille-Provence est même en direct pendant cette journée où Nadia Kiguidé fait ce reportage, est même en direct et montre la reprise du trafic en fond de scène derrière son journaliste. Et on voit bien qu'effectivement, ça reprend. Un travail journalistique de base, des faits, rapporté dans un journal, a priori, rien qui aurait dû susciter l'ire de l'actionnaire, sauf cette fameuse une qui l'a, semble-t-il, pour eux, recèle une ambiguïté.
D'accord. Alors, l'ambiguïté peut tenir effectivement au fait que le mot narcotrafic est présent hein, dans l'ensemble des éléments de composition de cette une, mais est-ce qu'on sait qui a pris la décision ? Parce qu'on sait que Gabriel Darcourt écrit à ses lecteurs, mais en interne, qui prend la décision de mettre à pied Aurélien Wiers ?
Ah, cette décision-là, selon nos informations, elle est prise par l'actionnaire CMA-CGM et après consultation et après réflexion de Rodolphe Saadé, qui convoque, toujours selon nos informations, Gabriel Darcourt, le directeur général de la Provence, qui n'est pas journaliste, mais qui est directeur de la publication du journal, c'est-à-dire son responsable juridique. Alors, on va préciser quand même que depuis Jean-Christophe Tortora, qui est le directeur général de Why Not Media, la filiale média de CMA-CGM, lui dément que Rodolphe Saadé soit intervenu directement et assume avoir pris cette décision d'un commun accord avec le directeur général délégué, qui lui a un parcours plus journalistique, Laurent Guimier, hein, qui a longtemps été à la tête de France Info et d'Europe 1, si je ne dis pas de bêtises.
Mais c'est un peu leur travail et leur rôle, non, de se poser en rempart et de dire que c'était pas eux qui... que c'est eux qui ont pris la décision et pas le patron.
Oui, bien sûr, c'est leur rôle, surtout dans un moment où Rodolphe Saadé se présente comme un nouveau grand entrepreneur des médias. Et aujourd'hui, il y a un épouvantail qui s'appelle Bolloré. Saadé, qui est plutôt macroniste, hein, qui est plutôt de centre-droit et libéral dans sa philosophie, eh bien, ne veut pas apparaître comme le nouveau Bolloré, n'a pas envie... évidemment qu'il apparaisse comme un vulgaire censeur. Je suis pas sûr que le triptyque Bolloré-Arnaud, donc de Bernard Arnault, patron de LVMH et de journaux, et Saadé, ça soit un triptyque qui lui plaise beaucoup.
Mmh. Oui, parce que tu viens de le dire, mais cette semaine-là, c'est pas une semaine anodine pour le groupe CMA-CGM et pour Rodolphe Saadé, parce que d'un coup ou d'un seul, il rentre dans la cour des grands. Il n'est pas juste le petit patron de la Provence, mais un patron qui va peser dans le jeu médiatique français.
Oui, c'est ça. L'acquisition de Next Radio TV auprès de Patrick Drahi, c'est-à-dire de RMC, de BFM TV, chez nous, de BFM Marseille-Provence aussi. Ça le fait rentrer, oui, dans la cour des grands, dans la cour des patrons de médias qui comptent. Hein. Il y avait déjà Corse Matin, La Tribune et La Tribune Dimanche, qui avaient été montées, on ne va pas se mentir, pour se donner une forme de respectabilité et de gage d'honneur, parce qu'ils répondaient à la destruction du JDD par Vincent Bolloré, qui avait décidé d'y mettre un rédacteur en chef d'extrême droite le JDD était un journal mainstream, vaguement centriste, surtout très proche des pouvoirs en place, quels qu'ils soient, au fil des années. Et voilà, il avait un petit peu mis en avant une forme de morale. Il avait à côté Bruno Jeudy, qui venait initialement du JDD il y a quelques années. Enfin, donc il était arrivé en disant « Bolloré, il fait ça, moi je vais recréer le journal du dimanche ». Dans sa version historique, hein, il ne l'a pas appelé comme ça, il l'a appelé « Rime du dimanche », c'était ça. Donc, il arrive dans le jeu et il était présenté comme ça, comme celui qui arrivait et qui était un patron de presse normal.
Alors, cette intervention réelle ou supposée dans la vie de la Provence, est-ce que c'est la conséquence de pression du camp macroniste ? Est-ce qu'on sait si, en haut de la tour, il y a eu un petit coup de fil de l'Élysée ou de macronistes plus locaux pour s'insurger de cette une et de ces ambiguïtés ?
Alors, ce qu'on sait, déjà, parce que c'est un acte public, c'est qu'un certain nombre d'élus soutiens du président de la République ont fait savoir que cette une leur déplaisait, qu'elle était dangereuse, notamment parce qu'il en a été beaucoup question dans les jours qui ont suivi cette mise à pied, l'expression de Christophe Madrol, conseiller régional de la majorité de Renaud Muselier, soutien du président de la République, qui admet avoir alerté et Gérald Darmanin et le président de la République sur cette une, hein, il l'a dit au Monde, il nous l'a dit aussi. Voilà. Après, il a tenté vaguement de rétropédaler parce qu'il a bien senti que ça lui donnait un rôle pas très glorieux pour lui. Mais voilà, il a dit cela. Alors, il précise aussi que Emmanuel Macron lui a pas répondu directement. Voilà. Et puis après, il dit « si, si, le lendemain, en fait, oui ». Bon, voilà, à peu près l'expression de Christophe Manrol. Et puis, il y a les révélations de Blast, notre confrère Xavier Monnier dans Blast, qui, lui, dit « il y a eu un coup de fil d'Emmanuel Macron, directement à Rodolphe Saadé ». Et il cite notamment comme une de ses sources un conseiller de l'Élysée, qui admet que ce coup de fil a eu lieu.
Oui, donc là on voit que ça part de très haut, et forcément, les gens se sont mis à un peu rembobiner le fil de la semaine, parce que Rodolphe Saadé, il a pris la parole à plusieurs reprises devant les salariés de son futur groupe, hein, pour les rassurer, un peu maladroitement d'ailleurs, sur sa position en tant qu'actionnaire. Qu'est-ce qu'il a dit très clairement ?
Il est dans une ambiguïté totale. D'un côté, il dit « je ne suis pas interventionniste », et de l'autre, il a dit « si quelque chose me déplaît, je le ferai savoir ». Dans la presse, on a tendance à dire que moins on entend parler d'actionnaires, mieux c'est. Et là, bah, il fait un double. Il joue dans l'impression qu'il pose un double jeu. Officiellement, j'interviens pas, mais vous saurez quand je suis pas content. Bon, on a vu plus clair comme position.
D'accord. Est-ce qu'il a réagi depuis la réintégration de l'inverse ?
Non, il a pas réagi ni à sa mise à pied, ni à sa réintégration. En revanche, il va devoir sûrement s'exprimer devant la commission d'enquête parlementaire, celle qui a auditionné Bolloré, Hanouna et compagnie, qui s'en penche en fait sur les conditions d'attribution des chaînes de la TNT. Donc, c'est une audition à huis clos, mais il va quand même devoir, ce mercredi où paraît ce podcast, répondre aux questions des députés. Il nul doute qu'il y aura peut-être quelques fuites. Ils sont nombreux, les députés, dans cette commission. Il y aura peut-être quelques fuites sur le contenu de la réponse de Rodolphe Saadé.
Oui, finalement, donc ce lundi, l'ensemble des salariés en grève de la Provence étaient réunis devant le siège du groupe. Alors, on attendait une prise de parole. Ça faisait suite tout de même à la décision prise par la direction de réintégrer Aurélien Villers avant même toute suite, on va dire, de tout type de sanctions. Donc, c'était quoi leur état d'esprit à ces salariés que tu as rencontrés ?
C'est très étrange pour eux. C'est-à-dire qu'ils se sont mis en grève et ils ont obtenu la réintégration d'Aurélien Wirth parce que eux-mêmes et les soutiens qu'ils ont obtenus du monde journalistique, d'un certain nombre d'élus, pas les élus locaux d'ailleurs, notons-le, hein, mais plutôt des élus nationaux attachés à ce principe d'indépendance des rédactions, et puis de lecteurs, pour eux c'était très important aussi, ils ont, disent-ils, obtenu des messages de soutien, reçu des messages de soutien, ce qui était pour eux une vraie fierté. Donc sur le papier, ils ont gagné, mais sauf qu'en fait, ils ont été tenus à l'écart de tout le processus de réintégration. Ça s'est fait entre la direction de Why Not Media, donc la filiale média de CMA-CGM, et Aurélien Wirth. Ils se sont proposés de l'accompagner, et ça n'a pas été accepté par les différentes parties. Et donc, ils se retrouvent dans une situation où, voilà, on leur dit ça. Et surtout, Aurélien Wirth n'est pas sur la position de l'Assemblée générale, et qui est la position de la rédaction, c'est-à-dire aucune faute n'a été commise. Aurélien Wirth, il va dire, oui, la composition était problématique dans la foulée de son employeur, et il va dire aussi qu'il aurait fallu sourcer dès la une la citation de Brahim, dont je parlais en début de podcast, pour ne pas laisser naître le doute. Voilà, il m'a même repris la célèbre formule de Martine Aubry, de la grand-mère de Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc voilà ce qu'il m'a dit. Donc on se retrouve avec un directeur de la rédaction qui est relégitimé par sa direction, mais qui, dans le même temps, n'est pas sur la position de sa rédaction. Donc là, ça présage de moments un peu compliqués. Et puis surtout, Rodolphe Saadé, il avait déjà fait des grandes promesses sur ces questions. Il est arrivé en faisant des grandes promesses à cette rédaction sur l'indépendance. Et petit à petit, il a renié sur ses promesses. Et là encore, ils se disent, mais quelle sera la prochaine fois où Rodolphe Saadé et ses équipes viendront entraver la liberté de la rédaction. Donc il y a des fois des expressions fleuries dans ces moments-là, hein, mais il y a une journaliste qui disait qu'elle avait l'impression de devoir bosser avec un flingue sur la tempe désormais. Bon, on peut dire que voilà, il y a de l'émotion dans cette expression, mais en tout cas, elle dit bien que maintenant, chacun se sent sous surveillance dans ce qu'il va écrire. Et il y a eu un rappel alors, au respect de l'arc républicain, dans une expression très politique qui, en ce moment, dont on voit bien en ce moment qu'elle est très disputée sur les contours qu'elle est censée... qu'elle est censée prendre. Voilà, certains craignent aussi une reprise en main sur le fond politique. C'est pas anodin que ça intervienne après une sur Emmanuel Macron, de la part d'un actionnaire dont on sait qu'il est proche du président de la République, qui lui-même s'était immiscé dans le processus de rachat de la Provence, hein, on va le rappeler. C'est dans l'avion présidentiel pour l'Algérie que Emmanuel Macron avait fait s'asseoir côte à côte les deux repreneurs potentiels, Xavier Niel et Rodolphe Saadé, qui se menaient une bataille à couteau tiré pour les enjoindre à se mettre d'accord. Et c'est au terme de ce voyage que Xavier Niel avait lâché la partie et que Rodolphe Saadé avait pu prendre la tête de la Provence. Donc déjà, le lien était étroit à ce moment-là. Moi, je me mets facilement à leur place. Hein. C'est facile de se mettre à la place d'autres journalistes. Je vois bien comment on peut se sentir épié à chaque virgule. Et donc, le risque, c'est moins la censure dans ces cas-là. C'est l'autocensure. La peur de déplaire. Et donc, on écrit moins fort, on écrit de manière moins tranchée, de manière plus plate, pour être sûr de ne pas avoir d'ennui. Voilà.
Alors, c'est pas la première crise que rencontre la Provence, hein, tu l'as dit au début, depuis son rachat par Rodolphe Saadé, les lendemains qui chantent ne sont pas pour tout de suite, hein, parce que même au niveau de, comment dire, du lectorat et de l'impulsion que ce rachat aurait pu donner au titre, les résultats ne sont pas là.
Non, il n'y a pas de succès économique pour l'instant. Rodolphe Saadé espérait un revirement immédiat dans son élan de la tendance économique du journal, qui perdait de l'argent depuis des années sous Bernard Tapie, qui continue à en perdre avec Rodolphe Saadé. Et il a commencé très vite en fait à rogner ses engagements. Et c'est d'autant plus douloureux pour l'équipe de la Provence qu'il faut se souvenir que dans le processus de rachat dont je parlais tout à l'heure, il avait fait tellement de belles promesses qui n'était pas contractuel, parce que ça n'était pas engageant devant le tribunal, mais il avait fait des belles promesses qui avaient fait que le CSE de la Provence, la plupart des organisations syndicales, la majorité de la rédaction, avaient soutenu sa candidature contre celle de Xavier Niel. Donc la trahison ressentie est d'autant plus forte. Parmi les promesses simples, hein, ne pas tailler dans les effectifs de la rédaction, alors que là, on a appris il y a quelques mois que une trentaine de journalistes en CDD ne seraient pas reconduits. Et ces journalistes en CDD, ils étaient venus simplement remplacer les départs permis par le rachat. Il y a un mécanisme appelé la clause de cession qui permet aux journalistes de partir dans les conditions d'un licenciement, mais sur simple demande. Eh bien, en ne renouvelant pas CDD, en fait, il ampute la rédaction et donc sa capacité de travail de manière très nette, obligeant d'ailleurs Aurélien Vers à revoir sa copie sur l'organisation du journal. Donc, forcément, les entorses, elles sont de cette aune-là. Elles sont aussi sonnantes et trébuchantes parce qu'il avait promis des augmentations à hauteur de l'inflation qu'il n'a pas respectées. Un certain nombre de garde-fous d'indépendance n'ont pas été mis en œuvre comme il l'avait dit. Là, ils vont essayer de mettre de nouvelles règles en place, mais qui seront à la fois, encore une fois, une sorte de contrat moral qui ne sera pas opposable, parce qu'en France, il n'y a pas de statut juridique des sociétés de rédacteurs, par exemple, qui leur permettrait d'ester en justice si les engagements ne sont pas tenus. Donc voilà, ils sont un peu échaudés, quoi.
Et on le voit d'ailleurs, hein, à la une du journal régulièrement, ou dans les pages intérieures, ce sont les sociétés de la CMA-CGM ou de Rodolphe Saadé, du groupe Saadé, qui font les pubs qui nourrissent le journal, preuve s'il en est de la difficulté à
trouver de nouvelles recettes.
Trouver de nouvelles recettes qui amènent un peu de baume au cœur, enfin en tout cas un petit peu de nouvelle énergie à ce journal.
Pour l'anecdote, la une incriminée, il y avait la publicité de la Méridionale en bandon en bas, donc une compagnie maritime propriété de la CMA-CGM. Donc voilà, c'était... En plus, sur cette une qu'il a tant détestée, il avait une de ces sociétés qui apparaissait. Donc Double peine pour le pauvre Rodolphe.
D'accord, donc c'est pas le patron, mais l'annonceur donc, qui s'est plaint finalement de cette une. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marie pour avoir décrypté cette crise chez nos confrères. Ce nouvel épisode du Bocal s'arrête ici. Peut-être est-ce utile de rappeler à quel point il est primordial de pouvoir lire un média qui ne dépend que de ses lecteurs. Pour ça, une seule solution, s'abonner à votre journal préféré et continuer à écouter le Bocal sur toutes les plateformes pour en connaître les coulisses. À bientôt.
Bientôt.